Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Rapamycin, tetracycline, penicillin, amikacin, vancomycin, mycostatin, polymyxin,
bacitracin,
antibiotics. How can a germ resist them?
Bonjour. Quand les virus s'installent, trop de personnes veulent encore se soigner grâce aux antibiotiques. Pourtant, on a toujours su qu'un mauvais usage de ces médicaments risque d'entraîner une résistance bactérienne et leur surconsommation ne fait qu'amplifier ce risque. Parmi les mauvais élèves à l'échelle européenne, il y a la France, derrière la Grèce et Chypre. Et la Roumanie aussi fait partie des pays gros consommateurs d'antibiotiques à l'échelle du continent. Le reportage de Benjamin Ribou.
Le cabinet de Théodore Stoica, dans la commune de Stoenecht, dans le centre du pays, ne désemplit pas. Il est le médecin traitant de 2300 patients, 20 consultations en moyenne par jour et 20 ans d'exercice de la médecine. Le temps de voir changer les modes de vie et les habitudes concernant la prise d'antibiotiques.
C'est un peu pesant pour un médecin de devoir répéter aux gens qu'une infection virale ne se soigne pas avec des antibiotiques et qu'ils ne sont efficaces que pour des cas de surinfection bactérienne. La consommation d'antibiotiques en Roumanie est beaucoup trop élevée. C'est la même chose en général pour tous les médicaments. Les gens se sont calqués sur le rythme de vie actuel. Ils veulent guérir vite et ne rien avoir à faire pour cela. C'est devenu difficile de tenir un régime, de s'hydrater correctement, de faire de l'exercice. Le plus simple, c'est de se voir prescrire une pilule qui va faire des miracles et te remettre sur pied.
Alors qu'il y a encore 20 ans, la parole du médecin était sacrée, Théodore Stoica, comme les autres médecins, doit lutter contre ses nouvelles mauvaises habitudes et des patients de plus en plus demandeurs d'antibiotiques, ce qui a aussi des conséquences.
Les bactéries sont de plus en plus résistantes à cause justement des excès en matière de consommation d'antibiotiques. Les gens en ont pris en pharmacie sans demander pour cela les conseils d'un médecin, en y allant directement. Une pharmacie est un commerce avant tout. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle prospère. Sur la commune de Stoenecht, il y en a 4, ce qui veut bien dire quelque chose.
Mais il faut une ordonnance pour obtenir des antibiotiques en pharmacie, non ?
En théorie, oui. En pratique, non. Essayez pour voir. Demandez un antibiotique dans une pharmacie sans ordonnance et vous verrez que dans 99,9% des cas, vous l'obtiendrez.
En 2016, l'Eurobaromètre de la Commission européenne établissait que 16% des Roumains achetaient des antibiotiques sans ordonnance contre 7% pour le reste de l'Europe. Des comportements individuels discutables. Et au niveau hospitalier, c'est le flou qui domine. Aline Mitulec est médecin au service des maladies infectieuses à l'hôpital de Târgoviște, préfecture d'un département dans le sud du pays. Selon lui, l'hôpital n'a toujours pas défini de politique générale sur la distribution d'antibiotiques.
Chaque service possède ses protocoles, mais il faudrait aussi déterminer au niveau central de l'hôpital comment les respecter. Ainsi, on n'a pas de liste avec les antibiotiques pouvant être utilisés de manière non restrictive, ni pour ceux possédant des restrictions. Difficile dans ces conditions de les utiliser correctement. L'hôpital devrait coordonner cela. On devrait avoir un responsable dans chaque service pour vérifier que ce qui vient d'en haut est bien appliqué. Au final, personne ne contrôle rien. Chaque médecin utilise les antibiotiques de manière artisanale. On n'a jamais eu de tradition en matière de respect des protocoles. Chacun fait un peu comme il veut.
En l'absence de politique concertée au niveau de l'hôpital, difficile d'être efficace. Pour Aline Mitulec.
Conséquence de l'absence de protocole, on en arrive à utiliser des antibiotiques qui ont un rayon d'action plus large que nécessaire. Or, plus c'est large et plus tu englobes de germes, moins c'est ciblé et cela devient nocif pour l'organisme. Les germes deviennent plus résistants et tu ne peux plus utiliser ces antibiotiques par la suite. La deuxième fois, cela devient dangereux. Par commodité, on a tendance à utiliser des antibiotiques qui agissent à tous les niveaux en disant qu'on fait pour le mieux.
La situation n'est pas la même partout, notamment à Bucarest, la capitale. Rafik Kerfati vient du Maroc. Il a fait ses études de médecine en Roumanie. Il est actuellement résident en quatrième année en endocrinologie dans un institut bucarestois. Pour lui, les choses ont évolué ces 10 dernières années.
Maintenant, avec la carte de santé du patient, il suffit de la mettre dans le système informatique et voir leur hospitalisation, les médicaments qu'ils ont pris, les congés médicaux, etc. Pouvoir bénéficier de la gratuité du médicament, ils ne peuvent acheter que les médicaments prescrits par le médecin traitant. Et donc, moi, je pense que maintenant, en 2020, s'il y a un abus, ça va être le médecin traitant qui en est coupable. Il y a des médecins qui ont pris cette habitude de prescrire des antibiotiques beaucoup plus facilement. Et franchement, moi, dans ma pratique, dans les grandes villes en Roumanie, non, on ne prescrit pas comme ça, sans avoir un antibiogramme.
Des pratiques qui gagneraient à être généralisées, une étude de la Commission européenne a récemment classé le pays en tête en Europe en matière de résistance aux antimicrobiens et aux superbactéries comme le staphylocoque doré.
Bacteria is getting cleverer. A virus is an evil genius. Parasites have got you in their sights. And fungi want you to die.
Face aux résistances aux superbactéries comme le staphylocoque doré, la phagothérapie pourrait faire son retour dans les pays occidentaux. Deux figures dominent dans la médecine des phages, découvertes il y a une centaine d'années, le français Félix Derel et le géorgien Georges Eliava. Mais le croate Vladimir Sertić, né au début du XXe siècle, fut l'un des pionniers de cette discipline, Simon Rico.
Lorsqu'il est mort en 1983, plus personne ne se souvenait de Vladimir Sertić et de ses recherches menées durant l'entre-deux-guerres sur les bactériophages. C'était à Paris, dans le laboratoire de Félix Derel, que le microbiologiste croate dirigea 11 années durant, de 1928 à 1939. Là, il a découvert et classé de nombreux bactériophages, dont le fameux Phi-X-174, qui permet de combattre la bactérie E. coli, dont certaines souches peuvent être pathogènes et entraîner des gastro-entérites, des infections urinaires ou des méningites. Pour faire simple, les phages, ce sont des virus qui infectent spécifiquement les bactéries et qui peuvent donc combattre des bactéries pathogènes. Découverte en 1915, avant les antibiotiques, cette thérapie a été vite supplantée, même si les pays de l'Union soviétique ont continué à l'utiliser sur la base notamment des travaux de l'Institut géorgien Eliava, toujours en activité. Mais depuis les années 1990, c'est l'apparition de résistances de plus en plus nombreuses aux antibiotiques, la phagothérapie refait surface et les travaux de ses pionniers sont peu à peu redécouverts, comme ceux de Vladimir Sertić et de son associé russe Nikolai Bulgakov, le frère de Mikhaïl, le célèbre auteur du Maître et Marguerite. Dans le laboratoire parisien de Félix Derel, les deux chercheurs ont notamment développé un système de classification très abouti des phages qu'ils découvraient, basé sur une lettre grecque, un chiffre romain et un chiffre arabe. Ainsi, la lecture correcte de Phi-X-174 devrait être Phi-10-174. Pour le moment, peu de ces phages découverts et classés par Vladimir Sertić ont été scientifiquement testés et leur efficacité validée, mais ces travaux connaissent un regain d'intérêt. Au mois de janvier, le pionnier croate a même eu droit à un article dans la revue de la fameuse Royal Society britannique. Une consécration près de 40 ans après sa mort pour celui qui n'avait plus exercé après 1945, traumatisé par la Seconde Guerre mondiale et qui bénéficiait d'une pension d'invalidité délivrée par la Yougoslavie socialiste.
Depuis des décennies, la natalité recule dans plusieurs pays d'Europe du Sud, notamment notre correspondante en Espagne, Diane Cambon, s'est rendue dans le petit village de Fermoseil. C'est aux confins de la région Castille et León, à quelques encablures du Portugal et du fleuve Douro. Ces deux dernières années, il n'y a eu aucune naissance, aucune grossesse n'est annoncée. Alors, le maire et les villageois se battent pour éviter que leur village ne disparaisse.
C'est jour de fête à Fermoseil. Les enfants du village ont revêtu leur déguisement de Blanche-Neige, de Spider-Man ou de sorcière pour célébrer le carnaval. Ces petits lutins prennent leur goûter organisé dans la salle de fête par la municipalité en présence du maire et de toutes les familles. Dans ce village, plus qu'ailleurs, les enfants sont traités comme des rois. Il faut dire qu'ils ne sont que 38 sur les 1200 habitants. La crèche municipale n'accueille que 5 enfants et depuis 2 ans, il n'y a eu aucune nouvelle inscription. Manuela est mère de petites jumelles de 6 ans et se félicite qu'enfin l'administration locale s'intéresse aux plus jeunes du village.
Avant, il n'y avait aucune activité extrascolaire. Après l'école, qui se termine à 2h, on allait au parc ou dans mon garage, ou alors il fallait prendre la voiture pour aller à Zamora ou au Portugal. Maintenant, il y a des cours de piano, de théâtre ou d'anglais, c'est beaucoup mieux.
Privilégier les activités pour les enfants, c'est un des objectifs de la nouvelle équipe municipale pour promouvoir le village. Le maire José Manuel Pilo, un employé bancaire à la retraite, dirige cette plateforme citoyenne qui a renversé les conservateurs aux élections municipales d'avril dernier, après 20 ans de règne. Avec ses collègues, il a la ferme intention de lutter contre le dépeuplement qui frappe son village. Son objectif est de choyer les actuels habitants afin de freiner l'exode rural, mais aussi de tout faire pour attirer de nouvelles familles, comme il l'explique depuis son petit bureau qui domine la belle place centrale du village, où chaque été, depuis 5 siècles, ont lieu les corridas de taureaux.
On ne peut pas continuer ainsi, car on assiste à une véritable saignée. On va terminer sans aucun habitant. On peut inciter à la procréation. On verse déjà 1000 euros à la naissance de chaque nouvel enfant. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, ce sont des aides pour fixer la population. Et cela passe par la création d'emplois et des conditions pour bien vivre. Car sinon, les gens vont aller voir ailleurs.
Retenir la population, notamment les jeunes, et les encourager à fonder leur famille dans le village, c'est tout un défi pour Fermoseille. Car selon les mères de famille, dont la majorité n'ont qu'un seul enfant, la question financière reste primordiale au moment de penser à avoir un second bambin. Comme l'explique Manuela, qui a dû quitter son emploi pour s'occuper de ses jumelles.
Je crois que les mères n'ont pas d'autres enfants car tout simplement il n'y a pas de travail. C'est la situation économique qui prime. Il faudrait qu'il y ait des industries. S'il y avait une usine qui venait s'installer ici, ce serait génial, ça créerait des emplois.
Du travail, il y en a dans les services, la construction ou l'agriculture. Mais ce sont des emplois qui n'attirent pas les jeunes, comme l'explique Charlotte Allen, une Anglaise qui s'est installée il y a 13 ans à Fermoseille.
Très peu de jeunes qui veulent s'installer ici, et d'autant moins des gens du village. Moi, je suis venue, il y a un autre étranger qui est venu s'installer il y a 3-4 ans. Mais les jeunes, ils ne s'intéressent pas du tout pour l'agriculture. Et que ça fait 20 ans, voire plus, que les politiciens s'intéressent pas non plus. Hein. Les gens s'en vont. Il y a un exode rural en Espagne très important. Donc le problème sera comment convaincre non seulement aux gens de revenir à la campagne, mais de maintenir la population que l'on a en ce moment.
Elle a repris des vignes qui étaient abandonnées et fait désormais un vin de qualité qu'elle exporte. Mère d'un petit garçon de 11 ans, elle regrette que l'agriculture, véritable source d'emploi de cette région, ne soit pas plus valorisée. Le maire de Fermoseille en appelle même à l'aide de l'Union européenne, avec un peu d'ironie. Après tout, Bruxelles a bien versé un budget de 3 500 000 euros pour sauver 2 espèces d'oiseaux du parc naturel de Haribès, où se situe le village.
Que l'on protège l'aigle de Bonelli ou le percnoptère, c'est très bien, mais il faudrait aussi penser à protéger une autre espèce, l'espèce humaine de ce parc, qui va disparaître aussi si on ne fait rien. Et nous aussi, on fait partie de la nature. Nous, on veut survivre. On ne veut pas que cela soit un désert démographique.
Pour la nouvelle municipalité, c'est le développement d'un tourisme durable et écologique qui peut sauver Fermoseille. Le village est un joyau qui surplombe le canyon du Duero, entouré de champs d'oliviers, d'amandiers et de vignes. Les anciennes caves ont rouvert ces dernières années avec l'arrivée de nouveaux vignerons. Cela a permis de créer une 20aine d'emplois et d'attirer de nouveaux couples susceptibles d'être de futurs parents.
Le Portugal, c'est l'un des pays où l'on vit le plus vieux en Europe. Mais le cliché des petits vieux assis sur un banc à regarder passer le temps a vécu, rencontre avec le collectif Lata 65, signé Marilyn Darcy.
Lata 65, Lata pour bombe, de celle qu'on utilise pour les graffitis ou les peintures sur les murs. Et 65 parce que ce club de graffiteurs n'est pas tout à fait comme les autres. Les artistes ont un minimum de 65 ans et parfois 80 ou 90 ans. Un drôle de club ou de groupement ou d'association, peu importe. On dit Lata 65 simplement parce que c'est sous ce nom que se regroupent des papis et des mamies graffeurs pour apprendre à réaliser des peintures murales, graffitis ou autres, chères au street art. A priori, rien ne prédisposait ces personnes à se lancer dans une activité d'ordinaire associée à la jeunesse et à la jeunesse irrévérencieuse ou franchement provocatrice. Rien, si ce n'est une envie de voir son logo ou son dessin peint sur un mur. Une envie d'en découdre avec les préjugés sur l'âge et le politiquement correct. Et même si la démarche n'est pas politique ou idéologique, il s'agit bien de lutter contre les préjugés. Tout est parti du constat fait par Lara Seixo Rodriguez en 2012. Cette architecte, organisatrice d'événements autour du graffiti et de l'expression artistique de rue, s'aperçoit que les anciens se montrent parmi les plus intéressés des spectateurs. Il s'arrête, regarde, jauge et questionne. Qui est l'artiste? Qu'a-t-il voulu dire? Comment a-t-il fait? Ce constat amène l'architecte à proposer des ateliers aux plus de 65 ans. Apprendre le graphisme, l'usage des stencils, l'histoire du street art. Puis passer aux choses pratiques, dans la rue, sur les espaces mis à disposition. Exprimer sa fibre artistique est pour beaucoup une première fois. Mais mettre un masque, enfiler des gants et se munir d'une bombe de peinture pour réaliser son graffiti provoque une joie incommensurable, disent les Lata 65. Plus de 200 personnes, principalement des femmes, ont participé aux ateliers de Lara Seixo au Portugal, mais aussi au Brésil, aux États-Unis et en Europe. Connus et reconnus, les papis et les mamigrapheurs font pas peur. Ils prouvent qu'il est possible de se dépasser et de se réapproprier l'art des jeunes pour un droit à vivre sa vie.
Just a minute. The leader of the band wants to show you how well they can play. Let's listen.
C'est vendredi, la musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et ce n'est pas encore le printemps, vous nous avez choisi un titre bien hivernal aujourd'hui avec les Belges de Cabane.
Je vous propose de trouver refuge dans la cabane de Thomas Jean-Henri, artiste bruxellois qui suit un parcours très personnel depuis un peu plus de 20 ans. Du côté de la photographie, mais aussi de la musique, avec le groupe Vénus d'abord et puis le projet Soy un Caballo en 2007. Aujourd'hui, Thomas Jean-Henri publie Grande et la Maison, un disque absolument sublime sous le nom de Cabane. Un édifice à la fois très personnel, dont il a écrit tous les titres, et éminemment collectif, élevé avec les talents conjugués d'une poignée d'amis musiciens, l'américain Will Oldham et l'anglaise Kate Stable se partagent le chant tandis que Sean O'Hagan signe les arrangements de cordes sur ses chansons aux frontières du folk et de la pop orchestrale. On peut aussi y entendre les cinq chanteuses de l'ensemble Bost Gayo dont les parties fonctionnent comme un chœur grec.
Down by the hills, the Yakushima trees gleam in the darkness of night. Surrounded by the sea, the wind blows in our eyes. Huddled in our velvet coats. As far as I see, our love fades in me. Where we were silently and an owl right above the leaves. Moon gives its brightest light on me. Oh, my boy, don't you see how I slightly disappear?
Cabane, Now Winter Comes dans Accent d'Europe. À la réalisation, Françoise Grelot, vous pouvez vous abonner au podcast d'Accent d'Europe via votre application ou votre plateforme préférée. Vous pouvez même nous laisser des commentaires ou des étoiles pour nous encourager. Passez un très bon week-end.